Labo des mots entaille dans la création littéraire contemporaine émergente. Lecture enregistrée le 29 mai 2021 en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Lucie Rico, exégèse.
Je suis attablée à une table, vous venez avec moi. Nous partageons un plat et je vous raconte ce que j'ai mangé, ce que j'ai dans le ventre, ce que vous avez dans le ventre, vous pouvez le partager. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Qu'est-ce qui s'écoule en vous? Qu'est-ce qui se dissout en vous? Vous nourrit, vous pèse, vous coule lentement. Un coup, le courage, la fatigue dans le ventre, la bile, une chair dans le ventre, plusieurs, un chagrin, des animaux, des mots, restés coincés peut-être, non, dans la gorge, durs à digérer. Et moi, est-ce qu'ils sont bien dans mon ventre? Vous me dites, j'aimerais te montrer ce que j'ai dans le ventre. Eh bien, moi aussi. Ils font parfois un peu de bruit, d'autres fois ils battent, ils se battent, ils bougent, ils gargouillent, ils s'engueulent, ils tremblent. Est-ce qu'on peut encore avoir peur dans un ventre? C'est peut-être faux. Ils sont peut-être contentés de glisser, chacun à leur façon, sur le dernier long chemin. Après le toboggan de l'œsophage, arrivé dans l'estomac, sorti de l'estomac, 2 heures après. Est-ce qu'ils ont communiqué, échangé leurs impressions, apprécié les bains d'enzymes? C'est là que commence leur métamorphose. Moi que j'essaie de les penser, de dresser leur portrait, plus ou moins recomposé. Comme je les ai avalés, c'est la moindre des choses. Respecter leur vie d'avant, je ne garantis pas l'exhaustivité. D'abord, parce que c'est lui qui vient en premier, c'est bien lui, l'œuf. Il s'appelle Premier. Sa génitrice était inscrite sur sa coquille. Il est né d'une poule, une femelle seulement, et ça c'est à signaler. Sa génitrice, justement, a choisi pour le mettre au monde un nid sombre, de taille adéquate, avec une litière douillette. Avant d'y pénétrer, elle a eu un comportement nidificateur, notamment marqué par un gloussement protecteur spécial. Après la ponte, elle a émis un autre chant qui a ressemblé à un cri de douleur. L'œuf faisait la queue pour sortir, derrière les autres, se solidifiant dans le noir de sa mère, préparant sa coquille à être dure et à tenir les chocs de la nature. Il est sorti pour être encoquillé dans une autre boîte, puis cassé en deux, tac, par mes doigts, expert en la matière. Et le blanc séparé du jaune, le blanc battu, transformé en neige, le jaune dans la poubelle, pour toujours séparé. Son blanc a rejoint d'autres liquides et se baigne maintenant en moi, à l'exception d'une coquille, un petit bout qui résiste, qui reste coincé. La fraise. Elle n'a jamais connu la terre. Dans de larges gouttières en plastique posées sur des supports à hauteur d'homme, suspendues au plafond, elle a poussé avant d'être arrachée, à la va-vite. Les bras mécaniques ont tranché sa queue, le vert séparé du rouge, comme pour l'œuf. À croire que l'homme ne supporte pas de couleur. Elle se marie bien avec mon sang. Le poulet. Je ne dispose pas de photos de lui vivant, mais de son histoire qu'on m'a transmise. On devrait toujours connaître ce que l'on mange personnellement, non? De ce que je sais, Owen a été un poulet tendre et heureux. Il a bénéficié d'une popularité indéniable. Il faisait l'impossible pour rendre ses proches satisfaits, retirant du sol les vers pour eux, chauffant leur nid, défendant les plus faibles et allant chercher des poux aux plus robustes. Parfois, on le célébrait à grands cris. Il déployait sa force avec enthousiasme et on s'entendait à faire régner la paix dans son espace collaboratif. Une fois rôti, il a nettement moins bougé, mais sa chair, pour lui rendre hommage, qu'il n'en reste rien, je l'ai mélangée à d'autres caractères. Vous voulez que je vous donne une recette de nuggets? Je mixe toujours 2 poulets, minimum. Si vous en avez le courage, vous pouvez réaliser cette recette avec 4 poulets différents, collés, bien serrés. Choisir des poulets de caractère marqué et compatible. Par exemple, si votre premier poulet est plutôt malicieux, l'autre devra aimer l'humour et ne pas être taciturne. Leur entente est primordiale. Vous pouvez d'ores et déjà les présenter en posant l'un sur l'autre les morceaux de ces poulets. Ainsi, une première approche en douceur pourra s'effectuer. Vous pouvez ensuite les mixer, jusqu'à ce que leur entente soit parfaite. Le bœuf. Est-ce qu'il y a des rapports d'échelle dans un ventre? Lui aussi a été bien élevé, à la dure, droitement, dans un champ, avec des valeurs, même s'il avait des particularités, car Agen avait un coin fixe, arpenté de lui seul. Ce qu'il faisait de son coin, on ne le savait pas, les autres vaches ne passaient pas la tête. C'était le coin d'Agen, le coin du secret. Chacun avait bien sûr ses théories. Un jour, Coco a tendu le museau, ça faisait longtemps qu'elle y pensait à franchir la frontière, à pousser la limite. Les autres l'avaient missionné pour amener son secret. Agen, quand il a vu ce museau passer la frontière, Ben, rien ne s'est passé. Il l'a invitée à rentrer. Elle n'est jamais sortie. Et c'est peut-être un peu d'elle que j'ai en moi aujourd'hui. Mais bref, le chaton. Moi aussi, je me demande ce qu'il fait là. Issu d'une bonne famille, cependant trop nombreuse, il fut chassé en raison d'un mauvais caractère. Errant ça et là, jusqu'à se retrouver là dans mon ventre, un petit morceau seulement, rassurez-vous. Le meilleur, peut-être, un organe. Est-ce qu'il est passé dans la terre, cet organe? Est-ce que je l'ai avalé dans une carotte, à côté d'une carotte, à côté d'une fraise, une qui aurait poussé dans la terre? Ou est-ce qu'il a été enterré? Ou sur une pizza à l'ananas, comment savoir au fond? À côté de lui, et je rêve qu'il se caresse parfois, s'apprivoise, il y a quelque chose d'autre. C'est ce qui est bien quand on mélange les sauvages, les domestiques et les élevages, ils s'apprennent des tours. Ce qu'il y a d'autre, à côté, c'est un bébé. Je me demande si je l'ai avalé et si je le digère aussi. Ou alors comment il est arrivé dans mon ventre. Contrairement aux autres, lui a commencé à grandir. Au début, il faisait la taille d'un petit pois, d'un haricot, d'une papaye, d'une pastèque. Jusqu'où grandira-t-il? Quand est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que je le digère? Est-ce que je l'ai avalé? Qu'est-ce qu'il a mangé, lui, du bœuf ou du chaton? Est-ce que ça influe sur son caractère? Est-ce qu'un jour il sortira d'ici ou est-ce qu'il restera docile? Comme l'œuf mangé, lui aussi je vais l'appeler premier. Et j'ai envie de lui dire, je vais te digérer toute ma vie avec les nuggets nommés.
Anne-Lise Solania, Storytime.
L'écran permet la projection. Qu'est-ce qu'un écran? Une partie de notre regard sur les choses. Aujourd'hui, pas d'introduction. Ou plutôt, une partie de ce qui articule notre regard avec les choses, le langage? Non, la famille, les cousins, les amis. Est un écran, l'un des tout premiers peut-être, il ordonne les choses en unité de sens. C'est pas mon problème, mes chouchous. Il met les arbres d'un côté, la forêt de l'autre et l'homme ici, au centre ou à la périphérie, selon les époques, et la femme. Aujourd'hui, si vous n'allez pas bien, je m'en fous, c'est pas à mon niveau. Et les jeunes filles? Où sont-elles? En 2015, l'anthropologue Natasha Martin, en expédition dans les montagnes du Kachaka, se fait attaquer par un ours noir. La voilà, la vérité. Écoutez. Qui lui arrache une partie de la mâchoire, elle réussit à le frapper de son piolet et l'ours repart. Hello les loulous, je suis super contente de vous retrouver. Quelques semaines plus tard, lorsqu'elle retourne parmi la tribu des Évennes, elle explique, rien qu'en étant là et malgré tout l'amour que lui portent ses amis. Non, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Elle dérange. Le tissu d'histoire de la tribu, une femme qui survit à un ours, dit-elle, c'est un vide sémantique. J'ai essayé 3 coiffures différentes avant celle-là. Il fallait trouver une coiffure qui dise « je suis honnête » et pas « drama queen, coucou ». C'est peut-être face au même genre de vide que les jeunes filles parlent. Mes chéries, avant de faire cette vidéo, j'aimerais vous dire. À l'époque de l'écriture de Storytype, je refusais le langage, je refusais les écrans. Avant toute chose, sachez que ce n'est pas une blague, je vais vous raconter quelque chose aujourd'hui. Les jeunes filles sont des écrans. La seule façon de se raconter, c'est de passer par quelque chose. Et c'est le genre de chose qui peut niquer des vies. D'extérieur à soi, et pourtant le regard, celui des autres et le sien, fige. Clairement, ça peut niquer une vie, genre pas la vôtre, la mienne, hello la famille. Avec leur souffle, statue au sein dénudé et au regard lointain, voilà ce à quoi je pense en les voyant. Mes bichons, j'aimerais qu'on soit bien clair, je ne recherche pas votre jugement avant toute chose. Et pourtant, les jeunes filles parlent, gagnent-elles quelque chose en racontant leur histoire? Les gens se permettent de juger certaines situations sans les avoir vécues, sans les comprendre et sans comprendre que parfois il y a beaucoup de choses qui peuvent vous traumatiser dans la vie ou qui peuvent vous faire mal ou tout simplement vous rendre pas bien. Petit à petit, gagne-t-elle du terrain sur les écrans ? Très peu de gens le savent et ils vous jugent quand même. Elle s'aventure, loin à force dans l'ouvert et dans leur propre ouverture, leur propre bordure. Est-ce une bordure ? Asseyez-vous, si vous êtes debout, vous allez tomber. Je vais vous raconter l'histoire parce que je vous aime, mais ça me fait mal. Avec leur souffle et le ton exagéré de leur voix, elles tentent de trouver un espace où elles pourront s'animer. Ça me fait très mal et puis ça m'énerve, je vous assure. Oui, oui, j'espère que vous êtes assis, non couché, parce que ça va chauffer. Elle resserre les voiles dont on les a habillées, elles s'enroulent à l'intérieur comme de jolies fantômes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous raconte pourquoi, et sur le coup, on ne se rend pas compte, on pleure, j'arrêtais pas de pleurer, mon cœur faisait tom-tom-tom comme ça, et je voyais flou, en fait, les nerfs et tout, et quand ça monte, tu vois flou, et tu regardes autour de toi, et rien, tu ne fais rien, en fait, c'est ça le truc, on est le truc auquel personne ne s'attend, on est bête, en fait. Alors rien, vous restez bloqués comme ça, je tremble, regardez mes mains. Et pour reprendre ce que dit la poète Anne Carson, depuis le centre de cette exposition totale et totalement imposée, elles disparaissent.
Alexandra Sologoub, Catherine.
Si je vous ai fait venir ici cet après-midi, c'est pour convoquer l'esprit de Catherine. J'ai l'habitude. J'ai passé mon enfance à organiser des séances de spiritisme avec mes copines ou mes peluches. D'abord par jeu, et puis j'y ai pris goût. Avec le temps, les esprits ont compris que je les aimais. Parfois, ils viennent à moi sans que j'aie besoin de les appeler. Là, par exemple, ça bruisse. Ils sont nombreux. Ah, pardon, ce sont des femmes. Elles sont nombreuses. Aujourd'hui, c'est avec vous que je vais opérer, selon un protocole assez simple. Je vais vous raconter un peu de la vie de Catherine pour que vous vous imprégniez d'elle. C'est l'avantage avec les esprits qu'on connaît. Il est plus facile de les retrouver et de les accompagner. Vous n'avez rien à faire, sinon de prêter attention et de vous souvenir de ce que vous ne connaissez pas encore. Imaginez, Catherine est fille d'immigrés. Le parcours de ses parents avant d'arriver en France est parsemé de violences. Catherine est la première fille, la sœur aînée. Elle a un grand frère et une ribambelle de petites sœurs et frères. Ses parents élèvent leurs enfants dans l'idée d'une intégration silencieuse. Ne surtout pas faire de vagues, rester dans le cadre. La famille de Catherine est très traditionnelle. Nous sommes en 1957. Les femmes sont élevées pour devenir mères. Catherine a toujours aidé sa mère. Catherine a de bonnes notes à l'école. Son père décide de la pousser à étudier. Elle a de la chance, il aurait pu en être autrement. Après son baccalauréat et grâce à son excellence, elle obtient 2 bourses pour étudier à Paris. Elle quitte sa famille. C'est dur, elle a toujours vécu dans la chaleur de la bande qu'elle forme avec ses parents et sa fratrie. Dans l'inconfort douillet de leur manque de moyens, de la faim qui les tenaille parfois. Catherine est courageuse. Elle répond au désir de son père. Elle part. Paris, en 1957, est pavé. Il y a moins de voitures, moins de monde dans les rues. C'est toujours trop pour Catherine. Elle n'a jamais vu ça, autant de gens dans si peu d'espace, autant de voitures en même temps. Autant d'amoureux qui se tiennent la main sur les quais de la Seine. Ça l'étourdit. Elle ne sait pas quoi penser, comment penser. Alors elle étudie. Elle écrit des lettres à sa mère en omettant tout ça, tout ce qui l'attire irrémédiablement. Elle essaye de répondre aux souhaits de son père, obtenir une grande école et se marier rapidement. Pour lui, le mariage est important. Paris monte à la tête de Catherine. Il y a la liberté grisante. Il y a les autres, ceux qu'elle a envie de rencontrer. Est-ce qu'une fois mariée, elle pourra les rencontrer ? Elle pense à sa mère, aux enfants de sa mère, ses frères et sœurs. Elle pense à l'épuisement de sa mère. Elle ne se voit pas à cette place-là. Elle ne comprend pas l'ordre des choses. Elle est censée se préserver pour son mari qu'elle ne connaît pas encore, alors qu'il y a tant de personnes qui l'attirent. Il y a Jean, par exemple, qui lui sourit gentiment. Rapidement, elle comprend que les études, c'est facile. Elle s'y plonge, elle est efficace. Ça lui laisse le temps de chercher à comprendre tout le reste. Comment ça marche ? Et si j'ai envie de flâner sur les quais de la Seine en tenant la main d'un homme, se dit-elle. Penser le mot « homme » la fait rougir. Jean, il lui sourit de plus en plus. Elle le cherche du regard. Elle travaille d'arrache-pied pour ne pas penser à lui. Elle hésite à en parler à son grand frère, lui aussi brillant étudiant. Elle garde son secret. Jean, elle se surprend à penser à lui dans la nuit. Elle se réveille, son corps appelle. Son corps a besoin de sentir sa présence. Elle vit seule, elle pourrait l'inviter. Personne ne le saurait. Elle chasse ce genre de pensée. C'est petit chez elle, et puis c'est moche. Jean, il faut qu'elle l'oublie, c'est trop dangereux. Pas maintenant, plus tard, quand elle sera grande, qu'elle aura son concours. Quand elle comprend qu'elle est enceinte, Catherine éprouve de la colère. Elle sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'assoit sur un banc, il fait chaud. Elle en profite. L'hiver a duré un peu trop longtemps cette année. Le moment d'amour valait-il cette épreuve ? Elle ne sait pas tout à fait, n'ose pas savoir. Elle a chaud, elle sent la lourdeur dans le fond de son corps. Elle est presque heureuse aussi. Elle vient d'être reçue à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Sa mère a ri quand elle a appris la nouvelle au téléphone, d'un rire bref et saccadé. Catherine a pensé au rire de Sarah, la femme d'Abraham, quand elle apprend qu'elle attend un fils. C'est un rire d'incrédulité. Sa mère a travaillé à élever des enfants et sa première fille lui apporte les fruits de cette éducation. Sa fille est reçue dans l'école la plus prestigieuse de France. Après les allocations familiales, c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Catherine est stimulée par ce rire. Elle ne peut pas blesser sa mère. Intuitivement, elle se demande qui elle peut aller voir. Elle n'ose pas demander à ses amis. Elle ne veut pas entacher l'image que ses amis ont d'elle. C'est compliqué. À qui révéler ce besoin si honteux ? Catherine cherche, marche dans les rues, traîne devant le bar où Monique passe beaucoup de temps. Une femme dont elle sent qu'elle peut l'aider au-delà de la honte. La honte, Catherine connaît bien. Catherine et Monique sont dans la même classe. C'est presque une inconnue. Elles ne sont pas du même monde. Catherine n'a même pas les moyens de se payer un café. Catherine n'a pas l'aisance de Monique. Elle l'a toujours un peu méprisée pour ne pas trop l'envier. Un matin, elle se lève tôt et attrape Monique avant son café quotidien. Elle lui dit « Je suis enceinte, je ne veux plus l'être ». Elle ne sait pas mettre les formes, discuter comme ces jeunes de tout, de rien. Quand elle parle, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont. Elle se retrouve à la nuit tombante devant l'hôtel de ville. Ensemble, elles vont rue Quincampoix. Catherine n'est jamais venue là avant. Dans 2 jours, elle retourne à Biarritz. Monique l'emmène dans une librairie tenue par Paul. Dans l'arrière-boutique, Josiane et ses amis se réunissent tous les jours, refont le monde et aident les femmes à avorter. Catherine n'est jamais retournée à Biarritz. Catherine est ma tante et j'ai toujours cru qu'elle était morte des suites d'une appendicite.
Camille de Gerfagnon, collection.
La maison possède une très fine seconde peau. Je touchais chaque objet, j'en explorais les angles, les faces cachées. Je dessinais les déformations et les traces d'usure, j'écrivais ce qu'il contenait. dans la maison où j'ai grandi, peu de choses peuvent possiblement se transformer en objets de dissimulation lorsqu'elles ne le sont pas déjà. Cache-cache, cache-colle, cache-nez, cache-peau, cache-prise, cache-sexe. Cela ne suffit pas de voir les choses telles qu'elles sont, il faut embrumer la vision. Sur la planète Terre, il y a plus d'objets que d'êtres humains. Autour de moi, il y a plus d'objets que d'êtres humains. Et pourtant, je ne les connais pas. L'objet est un être non vivant qui parfois s'anime. Il a un corps et des organes faits de plastique ou de métaux, de bois ou de verre. Sans savoir pourquoi, je répétais ce geste 9 fois. Le frottement se transforma en caresse, mais même une caresse peut laisser des traces. Rouge ou griffé, un geste voué à effacer le passage de la saleté, un geste affectif. En entrant chez un inconnu, après avoir essuyé mes pieds sur le paillasson, je repère tous les objets et je les examine un à un. J'ai entraîné mes yeux pour qu'ils se déplacent sans que personne ne le remarque. Ce mot en dissimule un autre, celui que j'aurais pu utiliser pour dissimuler celui-ci. Et puis soudainement, j'ai eu envie de chocolat. L'échelle prouve beaucoup de choses. Que l'être humain ne peut se débrouiller seul, qu'il a besoin sinon d'un objet, d'un autre être humain pour atteindre une chose. Le rideau n'est jamais seul. Difficile de savoir pourquoi. Accompagné de son jumeau, il ne peut subir qu'un nombre de mouvements limités. Emporté par le vent, le rideau se coince parfois dans la fenêtre ouverte et il souffre. Son coefficient de dissimulation est défini par son degré d'opacité. La dent est un outil de déchiquetage de matière dite comestible, ayant été préalablement découpée par une lame tranchante. Le même travail est fait à 2 reprises. La dent a surgi d'une surface molle. Le sens du toucher se limite à l'effleurement d'une surface dure et plane, souvent rectangulaire, provoquant 2 types de sonorités seulement, le frottement et le clic. On ment tous lorsqu'on ne répond rien. Les objets, eux, ne jugent personne. Ils ont du respect pour tout le monde. Je pourrais me débarrasser des objets qui apparaissent plusieurs fois. Ce serait comme enlever une partie de moi-même. Depuis toujours, elle avait mis en place des mécanismes tentant de rectifier sa douleur. Elle plaçait du papier collant sur les fissures de son corps et s'occupait de l'intérieur comme on rembourre un coussin. Elle avait pour cela des ustensiles bien précis qu'elle gardait dans un petit meuble fermé à clé. Dans son corps, j'ai trouvé des lettres, des fils et des fibres de bois. J'ai aperçu des billes d'argile qui se confondent aisément avec des caillots de sang. Il y avait aussi des trous, ceux qui demandent à être nourris constamment et qui digèrent sans atteindre la satiété. Les objets qui s'injectent dans mes veines remplacent peu à peu l'incertitude qui y régnait. Je sens l'objet qui traverse les tuyaux de mon corps. Je décroise les jambes. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Le corps est une machine à digérer. Les os de mon corps sont les objets de mon esprit.
Amédine Cédès et Stéphanie Vauvor, Les Irritantes.
Bonjour. Nous avons le plaisir de vous annoncer la réussite de votre candidature. Vous avez franchi avec succès toutes les étapes de notre sélection. Vous êtes les plus talentueux. Vous êtes l'élite. Vous êtes la crème de la crème.
Dans une volonté constante de développement et d'ajustement de notre entreprise aux nouvelles gageures contemporaines, Et dans l'optique d'être toujours plus performant, nous vous proposons une formation
ludique
sous forme de tutorat
bienveillant
que nous allons vous dispenser IRL.
In real life, en vrai quoi.
Il va falloir apprendre à se tenir. Se tenir, c'est-à-dire adopter une position physique et mentale pour aborder l'existence. Une posture adaptée aux situations sociales rencontrées. Pour ce faire, il faut se constituer un programme, une sorte d'entraînement de l'existence, des cours pour apprendre à se comporter, à faire face à la situation, être droit dans ses bottes, mener les choses de front, dormir sur ses deux oreilles, avoir la tête sur les épaules et les épaules larges, saisir à bras le corps, prendre les choses en main, obéir aux doigts et à l'œil, se battre bec et ongles. Ainsi, on devient de vrais contorsionnistes, des pantins désarticulés capables d'exécuter ces figures brillamment.
Vous n'avez pas choisi d'être pauvre et marginal. Vous aviez des chaînes, la peur du manque d'argent. Le type de Pôle emploi vous a recommandé d'utiliser les grands groupes pour vous émanciper, pour vous projeter dans l'avenir. Vous avez songé à ce que vous désiriez. Vous n'en saviez rien.
Vous avez signé.
Vous êtes détentrice d'un CDI chez Care Assistance. Vous bicravez votre âme. Mais bicraver son âme est devenu le sentiment majoritaire. Vous êtes la fille du téléphone.
Vous entrez en scène. Un autre.
Care Assistance, bonjour.
Une autre.
Oui, madame.
Une autre.
Bien, madame.
Un autre.
Tout de suite, monsieur.
Un autre.
Certainement, monsieur.
Dans les temps creux aujourd'hui, on trompe l'ennui. On regarde l'écran de va et bouger. On regarde flou la porte automatique. On discute par-dessus le clavier, on se cache pour boire le café.
Le plus souvent, j'utilise ma bouche pour qu'elle convertisse les mots correctement, traduise mes usages personnels par le langage de l'entreprise. Ainsi, le collègue
devient le collaborateur.
Un appel.
Un call.
Mon salaire.
Une gratification.
Et le piston
du réseau.
Tandis que les ruptures
deviennent des disruptions.
Les richoux.
La catégorie la plus aisée.
Le bonjour souhaité au client.
Et maintenant une agréable journée.
Si le licencié est malheureusement
remercié,
c'est la faute à la récession.
Soit la croissance négative.
Causant une réorganisation
devenue mutualisation
impactant bon nombre de citoyens
nouvellement individus
mais ne cédons pas pour autant à la dépression nerveuse
enfin l'effondrement énergétique
car nous avons des compétences
ou plutôt des skills
pour nous engager dans d'autres galères
disons challenge
ne laissons pas les opinions contraires
c'est-à-dire les trolls et autres haters
nous détourner de notre réflexion
brainstorming.
Et si tout ça nous emmerde, hein, si tout ça nous emmerde, on peut toujours plier bagages et se faire une Carlos Ghosn.
S'enfuir.
On est réunis dans le couloir de l'arrière-boutique pour marquer sur le tableau blanc les apaisants et les irritants. C'est une technique qui vient du dessus visant à communiquer entre nous, les chefs, et toutes celles et ceux qui passent devant le tableau. C'est visuel et ça appelle le regard. Bonhomme content en vert, bonhomme en colère en rouge. L'exercice n'est pas censé durer plus de 5 minutes, mais parfois les collègues y voient un endroit pour s'exprimer. Le superviseur dit « Alors ?»«
J'ai un irritant, les affaires sont pas bien rangées.
Bon ?»«
Je dois courir pour la graffeuse.
D'accord, et ?»«
J'ai un irritant, la clim est trop forte. »«
Bien, bien, et ?»«
J'ai un irritant, la boutique ferme toujours en retard. »
Je note, mais...
J'ai un irritant, ce logiciel n'est pas intuitif.
Certes.
J'ai un irritant, on n'a plus de pochette à billets, on n'a plus d'étiquette bagage à donner, mon badge fonctionne une fois sur deux, les chaises sont bancales, le télétravail c'est compliqué, pas possible de travailler correctement.
Vous avez pas des apaisants ?
Les vestiaires sont bien rangés.
Le superviseur note sous le bonhomme vert, informatique, plus plus. J'ai rendez-vous dans le bureau libellé D, P, X. Les premiers temps, j'imaginais deux petits xylophones ou deux prises de Xanax, mais pas dirigeant de proximité avec un grand X.
Y a rien qui te choque dans ton dossier, là ?
A bouillonné Sandrine, éruptive, sans même me laisser le temps de m'asseoir.
La salle Berlin nous en serrait, vilaine petite pièce insonorisée comportant un ordinateur sur un bureau vert cacadois, flanqué de deux chaises bancales disposées en vis-à-vis, généralement dévolues aux entretiens one-to-one. Dossier 219-457.
Regarde tes commentaires.
S'est-elle écriée, révélant une appétence pour la pédagogie des plus confidentielles. J'ai fait aller la souris vers la rubrique concernée, cliqué droit, ouvert mes notes.
Mercedes 300 SL. Les portes s'ouvrent comme des ailes. Les portes s'ouvrent comme des ailes. Sérieux, t'as pas l'impression de nous faire passer pour des branques auprès du Presta, là. Tu communiques avec un professionnel au sujet d'un client premium, tu réalises. Non mais t'as quel âge enfin, 8 ans? Qu'est-ce que c'est le terme adéquat? Le jargon qu'on t'a enseigné à ton arrivée?
Je m'en souvenais. J'ai répondu « porte en élytre, mais... »
Oui.
« Élytre, ça veut dire aile. Ce sont les ailes d'une sorte de mouche, c'est la même chose. D'accord, ce n'est pas le mot exact. »
Je rêve. Tu te justifies là?
Non, c'était juste pour expliquer...
Je me fiche complètement du sens des mots. Je te demande seulement d'utiliser ce qu'on t'a appris et que tu peux retrouver dans tes manuels. C'est très simple. Tu es capable de faire ça, Jennifer?
Oui. Vous avez signé pour effectuer une prestation. Délivrer un service. Pas trembler. Pas pleurer. Répandre peut-être un peu de sueur. Vous n'avez pas signé pour laisser votre subjectivité transparaître dans les interstices.
Avec le collègue, on fait cet exercice d'être incognito, uniforme caché sous la veste, le temps de la cigarette. On en profite pour parler mal et des choses du travail. On dit
« Mon dernier client hier, c'est un sale con !»
Ils sont en train de tout foutre en l'air avec leur réforme.
« Ils y connaissent rien, c'est des incompétents qui se croient puissants. »«
Regarde ce chien, il est borgne. » »«
Oh, désolé, pas de monnaie. » »«
Elles sont un peu moches, les nouvelles chaussures de maman, non ?»«
Putain, il caille !»
C'est affolant le monde dans la boutique.
Oui, mais ils ferment tout partout en même temps.
Non, désolé, pas de monnaie.
Et puis c'est l'heure, il faut y aller.
Pour chaque jour de travail, le client du jour. J'établis un classement à la fin de la journée, quand je ferme les yeux dans le Transilien. Je passe en revue le plus drôle, la plus désagréable, la plus polie, le plus gentil, le plus pressé, la plus insolite.
Les clients, ce sont toujours des inconnus, des météores verbeux. Lean pour un management moderne, distribué lors de votre première matinée. C'est un grand machin élaboré par tout un tas de types très perspicaces. Ça vient du Japon. Un mélange de Kaizen, participation des salariés, et de Muda, chasse aux irritants. Sur le coup, vous avez eu peur. Vous avez cru que les irritants... C'était les gens qui peinaient à s'accommoder rapidement au système. À tous les coups, je vais me retrouver dedans. Fissa, vous avez pensé. Mais votre manager vous a rassuré en vous expliquant qu'il s'agissait des temps morts, des micro-problèmes, du gaspillage.
Ne vous adaptez pas.
Intégrez-vous.
Ne vous intégrez pas.
Assimilez-vous.
Vous avez signé.
Vous êtes détentrice d'un CDI chez Care Assistance. Vous bicravez votre âme.
Mais bicraver son âme est devenu le sentiment majoritaire.
Vous êtes la fille du téléphone.
Vous voudriez pleurer, mais votre mascara n'est pas waterproof.
Vous voudriez démissionner de votre propre existence.
L'open space, soudain, est devenu un grand mouroir vivace.
Tout alentour est d'une extrême sauvagerie.
Ne soyez pas sentimentale.